de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal d'aujourd'hui, le 26 avril 2020. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. La Chine dévoile le nom de la première mission d'exploration sur Mars. Pas de nouveau cas corona pendant 12 jours. Le Cambodge demande à ses citoyens de rester vigilants. L'urgence de COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé a donné des directives pour les activités pendant le Ramadan en Indonésie. L'observateur a dit que la pandémie de COVID-19 paralysait de façon inattendue l'économie mondiale. Bonne nouvelle, le virus corona meurt rapidement par temps chaud. Prévenant la crise alimentaire, on a demandé au gouvernement d'arrêter la conversion des terres. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'agence spatiale chinoise a lancé vendredi le nom de sa première mission d'exploration sur Mars à la Journée spatiale chinoise et au 50e anniversaire du lancement de leur premier satellite. Il a donné le nom de la mission Mars Tianwen 1. L'agence de presse officielle Xinhua a rapporté, citant l'agence spatiale chinoise, China National Space Administration, ou abrégé en CNSA. Le nom de la mission d'exploration sans pilote sur Mars, qui sera lancée cette année, vient du mot Tianwen, ou en français « Question pour le ciel », un poème écrit par Gu Yuan il y a 2000 années. Dans le poème, des questions se posent sur les étoiles et autres objets célestes. La CNSA a déclaré que toutes les futures missions d'exploration planétaire seraient nommées Tianwen, pour montrer les réalisations du pays dans l'espace. La Chine a lancé avec succès son premier satellite, Dongfang Hong 1, en 1970. En 2003, elle est devenue le troisième pays à envoyer un homme à l'espace avec sa propre fusée, après la Russie et les États-Unis. Vendredi, le premier ministre cambodgien Samdech Techo Hansen, sur son compte Facebook, a demandé à ses citoyens de rester vigilants, même si le royaume n'avait rapporté aucun nouveau cas de COVID-19 au cours des 12 derniers jours. Selon Hansen, il n'existe aucun médicament spécifique pour traiter les maladies hautement transmissibles COVID-19. Il a également encouragé les gens à utiliser des masques, à se laver souvent les mains avec de l'alcool ou un savon antibactérien et à éviter les foules. Selon le premier ministre, les rues de la capitale Phnom Penh sont redevenues denses après qu'aucun nouveau cas n'a été rapporté par le royaume depuis le 12 avril. Selon une déclaration du ministère de la Santé ce vendredi, le Cambodge a enregistré jusqu'à présent 122 cas confirmés de COVID-19 avec 110 patients en convalescence. Les taux de guérison de patients atteints du virus corona au Cambodge a atteint 90,16%. L'Organisation mondiale de la santé ou l'OMS a diffusé 9 recommandations générales en tant que ligne directrice pour les activités sociales et religieuses en Indonésie lors du jour saint du Ramadan de ce vendredi à un mois plus tard. On a formulé les lignes directrices de l'OMS en se référant à la lettre du ministère de la Religion sur les orientations pour le Ramadan et l'Eid al-Fitr en Shawwal 1441 Hijri au milieu de la pandémie COVID-19 et les conseils pratiques de l'OMS sur la mise en œuvre des activités religieuses pendant le Ramadan qui a été lancé le 15 avril. Dans ces 9 recommandations générales, l'OMS souligne la nécessité d'annuler les activités sociales et religieuses pour prévenir et contrôler la propagation de COVID-19. Ainsi, selon l'OMS, par les directives des activités du Ramadan reçues à Jakarta vendredi. Non seulement cela, l'établissement de santé sous les auspices des Nations Unies a également demandé aux Indonésiens de maintenir une distance physique. L'organisation encourage également les gens à maintenir une hygiène personnelle et la propreté dans les lieux de culte. Le professeur Chen Dong Xiao, l'observateur économique international des instituts d'études internationales de Shanghai en Chine, a évalué vendredi, lors d'un séminaire en ligne organisé par le CSIS Indonésie à Jakarta, ce vendredi, que la pandémie de COVID-19 avait paralysé l'activité économique mondiale de manière inattendue. Il a expliqué que selon le modèle de simulation de l'impact prévu de la pandémie de COVID-19 sur l'économie chinoise était fortement tributaire du succès de la Chine à contrôler cette pandémie. De plus, le modèle prévoyait également que l'économie chinoise au premier trimestre serait touchée mais pourrait se redresser au deuxième trimestre et ainsi de suite. Il a estimé qu'on devait réactiver l'économie dès que possible après la pandémie de COVID-19, mais en même temps, le défi n'était pas seulement la situation pandémique de COVID-19 en Chine, mais aussi dans le monde entier. Vendredi, le président Joko Widodo au Palais Merdeka à Jakarta a annoncé la bonne nouvelle basé sur la recherche déclarée par des responsables du Department of Homeland Security du gouvernement des États-Unis que plus la température, l'humidité et l'exposition au soleil raccourciraient la vie du virus corona. Selon le président, l'Indonésie est un pays tropical avec des températures chaudes, de l'air humide et une lumière solaire riche. Mais le président Jokowi a rappelé au public de ne pas oublier le protocole de prévention de COVID-19. Il y a 4 protocoles de prévention COVID-19 du président. Le premier est « Lavez-vous les mains fréquemment ». Le deuxième est toujours « Utilisez les masques ». Le troisième est « Gardez vos distances ». Et le quatrième est « Augmenter l'immunité et l'endurance ». L'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, ou FAO, a déclaré que la pandémie du virus corona pourrait avoir un impact sur la pénurie alimentaire mondiale. Cette condition a également retenu l'attention du président Joko Widodo. Le président a rappelé de prendre sérieusement l'avertissement de la FAO. Le problème est, en plus de la pandémie, la menace de la crise alimentaire est également présente de la conversion des terres qui continue de se produire. Le directeur de la campagne d'eau, d'alimentation et d'écosystèmes essentiels de l'exécutif national du Forum pour l'environnement, Wahyu Perdana, évalue vendredi qu'il doit faire de l'avertissement de la FAO comme l'élan du gouvernement pour réformer la politique alimentaire nationale. Voilà les journaux d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine intitulée « Pas de moudik pour le ramadan de cette année en Indonésie ». Le président Joko Widodo a annoncé l'interdiction de moudik, une tradition annuelle de retour au village pour fêter la fin de ramadan en famille pour empêcher la propagation du COVID-19. C'est-à-dire, le mois de juin cette fois-ci, elle ne permet pas aux Indonésiens de retourner au village ou rentrer à la ville natale. C'est ce qu'a déclaré le président Jokowi depuis le palais Merdeka lors d'une téléconférence limitée dont le thème était « Pour suivre la discussion sur l'anticipation du retour au village avec le vice-président Ma'ruf Amin et les ministres indonésiens du cabinet d'Indonésie en Avant à Jakarta ce mardi. » Selon le président, cette interdiction de moudik est basée sur une évaluation sur le terrain réalisée par le ministère des Transports, selon laquelle 68% ne rentrent pas au village, 24% insistent pour rentrer au village, 7% étaient déjà rentrés à leur village, ce qui signifie donc qu'il y avait encore un très grand nombre de 24%. Le président ne souhaitait pas une propagation plus large de COVID-19. Il a donc demandé de préparer immédiatement l'interdiction de retour au village. Le président a ajouté, les pauvres citadins qui ne retournent pas au village bénéficieront de l'aide sociale. Selon le président, depuis lundi dernier, on a déjà distribué de l'aide sociale de 9 denrées de base à Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ou Jabodetabek, des cartes de prêt-travail, et de l'aide en espèces. Pendant ce temps, le ministère des Transports prépare un règlement du ministre des Transports concernant l'interdiction des retours au village cette année. Un porte-parole du ministère des Transports, Adita Irawati, a déclaré que le ministère des Transports préparait actuellement un règlement du ministère des Transports qui réglemente l'interdiction des retours au village y compris des sanctions en cas de violation des règles. Adita Irawati a expliqué que la rédaction du règlement du ministre des Transports impliquait les parties prenantes concernées, telles que l'Agence de régulation des routes à péage, la police, etc. Les règles de transport liées à l'interdiction de moudik s'appliquent aux transports publics et aux véhicules privés. On a commencé à appliquer cette interdiction par étapes, progressivement et en continu, à partir du 24 avril 2020. On commencera à appliquer des sanctions complètes le 7 mai 2020. On imposera une interdiction de moudik jusqu'au 2 Shawwal 1441 Hijri, où on pourra l'ajuster basé sur la dynamique de la pandémie COVID-19. Adita a expliqué que les scénarios préparés étaient une restriction de la circulation sur la route d'accès à l'intérieur et à l'extérieur de la zone, mais ce n'est pas la fermeture de la route. On l'a fait parce que ce qui est interdit de passer est un véhicule qui ne transporte que des passagers, tandis que les frais de marchandises ou de logistique peuvent encore fonctionner. On ne fermera pas non plus ni n'arrêtera les opérations de transport de masse dans le Jabodetabek comme Commuter Line. C'est tout la mise au point de la semaine.
Chers amis, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 26 avril. Le 26 avril 1959, Ki Hajar Dewantara est décédé. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, ou mieux connu sous le nom de Ki Hajar Dewantara, est une figure de l'éducation nationale. né le 2 mai 1889 à Pakualaman. Il devint plus tard un militant du mouvement indépendantiste indonésien, l'éditorialiste, le politicien et le pionnier de l'éducation pour les Indonésiens de l'ère coloniale néerlandaise. Il était le fondateur du Collège Taman Siswa, une institution éducative qui offrait aux autochtones la possibilité d'obtenir des droits à l'éducation, ainsi que des priyayi et des néerlandais. En tant que pionnier de l'éducation générale, il a été déclaré père de l'éducation nationale indonésienne et son anniversaire, le 2 mai, a été proclamé Journée de l'éducation nationale. Il est décédé à Yogyakarta le 26 avril 1959 à l'âge de 69 ans. Le 26 avril 1964, le pays de Tanzanie a été fondé. Le Tanganyika est devenu indépendant le 9 décembre 1961 et Zanzibar le 10 décembre 1963. Le 26 avril 1964, ces deux pays ont adhéré à la République unie de Tanganyika et Zanzibar. Le nom a été changé en Tanzanie 6 mois plus tard. Le 26 avril 1986, le réacteur nucléaire de Tchernobyl a explosé. Le réacteur nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique a explosé le 26 avril 1986. L'explosion avait tué des dizaines de personnes, des centaines de personnes contaminées par des substances radioactives et des centaines de milliers de personnes déplacées. La contamination due à l'explosion du réacteur nucléaire a entraîné des défauts de la peau et d'autres organes. Vu cette situation, les Nations Unies se sont senties convoquées et ont formé une commission visant à utiliser le nucléaire aux fins positives et à empêcher son utilisation aux fins de guerre. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Semua ku lalui, takkan pernah berhenti.
Terbang tinggi, yeah. leave. People would tell you to never believe. Yeah, the past trying to get you. They were always trying to get you, trying to break you. Stone never, baby. Don't you worry about thing, makes you crazy. Yeah, biarkan yang lalu pergi. Mari jalani hari yang baru. Jangan hilang semangatku.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Bon, chers auditeurs, voici mon Indonésie. Mon Indonésie d'aujourd'hui, dimanche, le 26 avril 2020, intitulé « Le report de Pon 2020 en Papouasie ». À la suite de la pandémie du virus Corona ou COVID-19, le gouvernement a officiellement suspendu les activités sportives nationales, la Semaine nationale du sport ou en indonésien, Pekan Olahraga Nasional ou abrégé en PON 2020 en Papouasie. Le président Joko Widodo a décidé de tenir la 20e Semaine nationale du sport ou PON en Papouasie en octobre 2021, ce qu'il avait prévu en octobre 2020. Après une réunion limitée sur PON 2020 avec le président, jeudi 24 avril, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, a déclaré que cette décision du gouvernement était une proposition de branche sportive, des discussions avec le Comité national indonésien des sports, faisant référence à une lettre du gouverneur de Papouasie et aux recommandations des résultats de la réunion de travail avec la Chambre des représentants Commission 10. En plus de retarder PON 20, le gouvernement a également reporté la mise en œuvre de PEPARNAS, ou en indonésien, Pekan Paralympique National ou la Semaine Nationale Paralympique. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, a déclaré que la considération du retard était qu'il y avait plusieurs achèvements du travail physique du site qui avaient été retardés en raison de COVID-19. Le gouvernement régional a arrêté l'activité en raison de la réglementation de la fermeture de la zone pour la prévention de la propagation du virus et l'écoulement du matériel de la construction a été entravé. En outre, selon le ministre Zainuddin Amali, toutes les régions se concentrent actuellement sur la gestion du COVID-19. On ne se concentre plus sur la préparation du PON, sur la préparation des athlètes ou bien le financement. De plus, l'arrivée d'équipements sur les sites a également été entravée car le virus Corona a dérangé les produits des équipements sportifs locaux et étrangers. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zainuddin Amali, dit que le report du PON 20 et des PEPARNAS n'est pas bizarre, car il y avait de nombreux reports dans d'autres activités sportives internationales, telles que les Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux de la Solidarité Islamique et les Jeux de l'ASEAN en raison de menaces de COVID-19. La raison du retard d'un an, selon le ministre Zainuddin Amali, est donc idéale pour la préparation des infrastructures ou bien pour les sites et les lieux d'hébergement. Tandis que la province de Papouasie a bien salué le report de la 20e Semaine nationale du sport de Papouasie. Le vice-gouverneur de Papouasie, qui a assisté à la réunion restreinte, a déclaré que le gouverneur de Papouasie avait envoyé le 7 avril 2020 une lettre au président transmettant les conditions sur le terrain. La lettre indiquait qu'on dirigeait toute la concentration et les ressources en Papouasie pour gérer COVID-19. C'est tout mon Indonésie.
kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, voici la rubrique du magazine Cultura. Cette fois-ci, je vous invite à Mojokerto pour visiter l'une des destinations touristiques les plus populaires de Java de l'Est, à savoir la statue de Bouddha endormi. La statue de Bouddha à Mojokerto mesure 22 mètres de long sur 6 mètres de large et atteint une hauteur de 4,5 mètres. La statue de Bouddha endormi est située au village de Bejijong, district de Trawulan, Mojokerto, Java de l'Est. Pour arriver à cet endroit, vous pouvez aller à Jombang. Après avoir traversé le carrefour de Trawulan, allez tout droit jusqu'à ce que vous trouviez le bureau de district de Trawulan à gauche de la route. Ensuite, suivez les instructions pour arriver à la statue de Bouddha endormi. Le Bouddha endormi à Mojokerto est recouvert d'une peinture dorée qui symbolise la mort de Siddhartha Gautama. Cette statue est construite face à la principale Qibla bouddhiste au sud. La statue de Grand Tail a été enregistrée par Muri comme la plus grande statue de Bouddha endormi en Indonésie, même si c'est la troisième plus grande statue de l'ASEAN. Ce sera très agréable de passer de vacances à ce lieu touristique des statues Bouddha endormi à Mojokerto, car ici est très calme. Les visiteurs peuvent également profiter de la beauté des bâtiments du monastère. Autour de la statue de Bouddha est entouré d'un étang contenant des centaines de poissons koi et de lotus qui attirent l'attention des visiteurs. En outre, il y a aussi diverses statues et miniatures de temples de Borobudur à l'intérieur du temple qui sont utilisées pour les prières bouddhistes. Sur le mur arrière du bâtiment principal, il y a également de grands reliefs qui racontent du Bouddha Gautama. Bien que ce monastère fonctionne comme un lieu de culte, rien n'interdit aux autres visiteurs religieux d'entrer dans ce temple à condition qu'il ne soit pas bruyant. Dans ce lieu touristique, vous allez trouver également des magasins proposant des accessoires typiques bouddhistes, de grands parkings et des vendeurs de produits alimentaires proposant différents types de plats culinaires de Java de l'Est. Prix de billets d'entrée à la zone touristique de statue de Bouddha endormi de Mojokerto est seulement 3000 rupiah pour les adultes et 2000 rupiah pour les enfants. Alors que les frais de stationnement pour les motos sont 2000 rupiah et pour les voitures 5000 rupiah. Chers auditeurs, si vous allez à cet endroit avant le jour de Vesak, vous pourrez regarder le rituel de la purification de la statue du Bouddha endormi qui débutera par une prière commune. Voici le magazine culturel de Voice of Indonesia.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri.
adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu, biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu, biarlah ku simpan sampai nanti sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintamu, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, voici l'Indonésie en couleur. Cette édition va parler de Jardin botanique de Bogor, présentera des dizaines de nouveaux types de plants. Chers auditeurs, le Jardin botanique de Bogor, ou en indonésien, Kebon Raya Bogor, est un paradis de plantes variées et constitue le plus ancien jardin botanique d'Asie du Sud-Est. Le jardin botanique situé à la ville de Bogor, Java de l'Ouest, couvre une superficie de 87 hectares et compte environ 15 000 types de collections d'arbres et de plantes. En plus d'être un lieu de conservation et d'éducation, le jardin botanique de Bogor, géré par l'Institut indonésien des sciences ou en indonésien LIPI, sont également l'une des attractions touristiques les plus visitées. Chers auditeurs, le jeudi 25 avril 2019, le Jardin botanique de Bogor a présenté des dizaines de nouvelles espèces de plantes. L'exposition a eu lieu lors de la tournée de presse. Il existe trois nouveaux types de plantes, ce sont bégonia, communing et oya. Hendrian, responsable par intérim du Centre de conservation de plantes et de jardins botaniques de l'Institut indonésien des sciences ou en indonésien LIPI, a déclaré que la divulgation de nouvelles espèces de plantes avait une contribution importante à la conservation des plantes et fournissait une nouvelle compréhension de la diversité des espèces de plantes indonésiennes et de leurs ressources. Selon lui, la mise en œuvre des fonctions de recherche et de conservation continue à être renforcée, en plus de prêter attention à d'autres tâches conformément au règlement présidentiel numéro 93 de 2011 sur le jardin botanique. Chers auditeurs, dans cette activité, on a présenté 32 nouveaux types de bégonia, espèces de plantes à fleurs de bégoniacées, le résultat d'expéditions et de recherches menées au cours des 10 dernières années. Selon lui, l'Indonésie compterait plus de 400 bégonias sur un total de 1924 espèces trouvées aux régions tropicales du monde. Type de Communing Muraya cyclopensis est un autre nouveau type exposé. Enfin, la découverte des plantes Oya concerne 10 espèces. Oya est une pigne. En tant que plante ornementale, les Oya sont généralement plantées dans des pots suspendus. Pour ce type de plante, l'étude a été réalisée de 2014 à 2019. Les participants à la tournée de presse ont également visité l'herbier du Jardin botanique de Bogor, qui a recueilli 50 000 spécimens de plantes conservées, principalement sous forme sèche. Chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur.
Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Thank you. pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Cari. Aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi, kau pun tak lagi, dan pun kan memulai kembali.
C'était la dernière chanson que vous écoutez. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Cette fois, je vais vous présenter la chanson de pop chantée par Arman Maulana. Arman Maulana a débuté sa carrière en tant que finaliste dans un magazine en Indonésie. Après cela, il a exploré l'industrie de la musique indonésienne. Son nom a commencé à être célèbre depuis qu'il est devenu un chanteur du groupe de Gigi. Bien que toujours dans le groupe Gigi, il a également une carrière solo. Au début d'avril 2019, Arman Maulana a publié une chanson intitulée « Bawa Daku Pergi » qui est une chanson des années 1990 popularisée par l'une des divas indonésiennes, s'appelle Ruth Sahanaya. La chanson créée par Putut Mahendra a été produite et réarrangée par DJ malaisien, s'appelle Tatsuro Miller. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson Bawa Daku Pergi, ou en français Emmène-moi, chantée par Arman Maulana.
Voice of Indonesia.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Oh, 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 oh
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.